Le 19 octobre 2018, la ville de Leblanc, dans le département de l'Indre, voit sa maternité fermée, sur décision confirmée par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et ce, malgré plusieurs mois de mobilisation locale menée par le collectif « C'est pas demain la veille ». Cette décision brutale, justifiée par des arguments économiques, impacte durement la population, qui doit faire plus d'une heure de trajet pour arriver à la maternité la plus proche, mettant en danger la vie des mères ainsi que celle des futurs nés. Le collectif d'habitants, qui rassemble une très large partie de la population blancoise, mène de nombreuses actions pour empêcher cette décision. Sur fond de lutte contre la violence faite aux femmes, en défilant sous le costume des servantes écarlates, en référence au livre de Margaret Atwood. C'est aussi une lutte contre la désertification des services publics en zone rurale qui se joue sur ce territoire. Sylviane, Claire, Bertrand, Judith et Hélène témoignent de leur vécu au sein de ce collectif et nous livrent dans les détails les étapes de leur lutte.
On a fait trop de bruit, on est trop emblématique. Rien que pour ça, elle ne pourra pas rouvrir.
Les coulisses de la lutte est une série documentaire sonore qui remet la focale sur ce que les individus en lutte vivent au quotidien. Elle nous livre leur trajectoire de politisation et mobilisation. Nous parle de stratégie, culture et tactique du quotidien. Elle retrace avec nous les étapes de leur lutte dans le souci de garder une mémoire de leurs expériences et de tisser du commun entre tous ces combats. Épisode 4. Le blanc. C'est pas demain la veille. Lutte contre la fermeture d'une maternité.
Eh bien, c'est Hubert, un bénévole de C'est pas demain la veille, ouais, qui est lui-même menuisier, et donc qui a créé ce monument aux morts, qui est en fait le monument aux morts des territoires abandonnés. Et en fait, c'était aussi toutes les villes qui étaient présentes quand on a fait les états généraux des maternités, fin mars 2019. Et donc, à la fin, on a inauguré cette stèle avec les servantes écarlates pour illustrer en fait tous les combats. Dessus, c'est marqué « À nos territoires abandonnés, aux enfants qui ne naîtront pas, à ceux et celles qui ne survivront pas, à notre système de santé condamné, pour les économies de la France. » Donc, il y a la liste des maternités confirmées et ça ressemble vraiment à un monument aux morts. Bah, ça illustre la fin de notre combat, en fait. Donc, les villes, c'est Die. Donc là, il y a eu un gros accident à Die, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui a perdu son enfant. Vire, Creil, Bernay, donc Bernay, ça a fermé l'année après nous. Tann, ça a fermé aussi en 2018, je pense, ou 2019. Altkirch, Leblanc, Sarlat, Saint-Claude, qui a fermé un an avant nous. Saint-Agrève, Saint-Afrique, Granville, Châtellerault, Montceau-les-Mines, Vierzon, Oloron, Mayenne, Privas, Autun.
Je suis arrivée en Brenne il y a un peu plus de 25 ans. J'avais trouvé du travail à 20 km du Blanc. Moi, je me suis vraiment basée et installée dans le Marais Poitevin. J'ai milité pour la coordination de la défense du Marais Poitevin. Je crois que j'ai vraiment déménagé au Blanc en 95-96. Alors, le Blanc, c'est une sous-préfecture quand même, mais qui est complètement excentré par rapport au territoire du département. On est vraiment à la pointe la plus à l'ouest du département de l'Indre et on est en jonction avec le département de l'Indre-et-Loire, le département de la Vienne. Donc les deux régions et ces trois départements-là. La sous-préfecture du Blanc est une petite ville qui, au début des années 90, totalisait quand même encore 9000 habitants. Ce qui a été aussi à un moment le gros pôle qui faisait du Blanc un point de rayonnement, c'est que ça a été un très gros pôle ferroviaire à une époque. Et ça, ça a fermé. Et ça a été quelque chose qui très vite a isolé le territoire, en fait. Il y a eu pas mal de choses qui ont commencé à fermer, où il y a eu des prémices de fermeture. Notamment, par exemple, l'agence Pôle emploi n'a plus d'antenne ici au Blanc. Il y a eu des fermetures de classes. Mais du coup, ça a forcément isolé un peu le Blanc. Et aujourd'hui, on regrette amèrement qu'il n'y ait plus ces liaisons-là. L'hôpital du Blanc est un petit hôpital qui, effectivement, est déficitaire. La maternité est déficitaire, mais comme beaucoup de petits hôpitaux. Alors après, la maternité fait tout juste 300 accouchements par an à l'époque, je crois. Bien avant 2018, effectivement, donc pour le coup, c'est dans les années 2011, 12, etc. Il y a déjà eu des tentatives de l'hôpital de Châteauroux d'absorber l'hôpital du Blanc. À ce moment-là, le comité de défense de l'hôpital s'est constitué, ils ont fait des manifestations, ils ont obtenu des rendez-vous et ils ont sauvé l'hôpital à ce moment-là. C'est là qu'il y a eu les très grosses manifs à 6 000, 6 500 personnes avec 40 tracteurs, 20 ambulances, qui là ont quand même déjà sensibilisé vraiment tous les habitants blanquois et autour de se dire mais notre hôpital est menacé. Il y a eu effectivement un premier gain de cause qui a été que l'hôpital et la maternité ont été maintenus, que la fusion qui devait se faire a été repoussée, mais pas très longtemps, puisqu'en fait elle a eu lieu quand même après en 2016. Et là, Châteauroux a le plein pouvoir pour régir l'hôpital du Blanc comme il le souhaite, comme il l'entend. À l'été 2018, il se trouve que au sein de la maternité, deux soignants qui prennent leur retraite, qui voient bien qu'il n'y a pas de recrutement de fait ni rien, et qui proposent à Châteauroux en disant ben voilà, on prend nos retraites, mais on veut bien continuer sur un temps pour pouvoir assurer un suivi du service sur la durée de l'été. Châteauroux refuse et dans le même temps permet aux deux pédiatres qui sont en place de prendre leur congé en même temps sur la période d'été. Donc effectivement, il n'y a plus personne à la maternité. Donc ça lui donne le champ libre pour dire la maternité du Blanc ne peut pas rester ouverte cet été, elle est dangereuse, il n'y a pas le personnel en place. Puis donc 2018, annonce de la fermeture provisoire de la maternité. On en arrive donc à cet été 2018 où il y a une énième grosse manifestation orchestrée par le comité de défense où des gens qui se connaissaient un petit peu se disent non mais c'est nul là en fait cette manifestation ça mène à rien, on nous fait chanter la Marseillaise, c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Et donc là un petit noyau de 7-8 personnes se rassemble la semaine suivante et de 7 ils passent à 15 et là ils se disent mais on tente quelque chose, si on ne fait rien on aura toujours le regret de se dire qu'on n'a rien fait.
Et ben en fait nous on s'est vus plusieurs fois avec Judith et d'autres. Et du coup, on se disait, t'as des nouvelles de la maternité, parce que ça, c'était l'actualité, ça allait fermer. Là, ils avaient annoncé. Et donc, nous, on attendait la manif.
Claire.
Parce qu'il y a un comité de défense ici de l'hôpital qui, en 2011, nous avait mobilisés. On était allés aux manifs et tout. Mais il ne se passait rien. Il y a eu enfin une manif qui s'est passée le 18 juin, à l'appel du comité de défense. Et où, en fait, ils nous ont réunis sur la place de la sous-préfecture, un truc très plan-plan, genre « on va pas se laisser faire !» comme ça. Ils nous ont fait chanter la Marseillaise, voilà. Et puis, on s'est revus avec certains, puis on s'est dit, en quelques jours, comme ça, on s'est rappelé, on s'est dit « on mange ensemble, tiens, tu viens, on mange ensemble ce midi, on était sept. » Et on s'est dit « on se laisse pas faire, on fait quelque chose, on fait un truc, au moins on dit qu'on fait un truc. On dira pas qu'on n'aura rien fait. »
Parce que le comité de défense, en fait, avait évolué.
Hélène.
Il était fatigué, sûrement. Mm-hmm. Il était vieilli. Pour une bonne part, il était du côté du gouvernement en place.
Ou des notables, on peut dire aussi. C'était notables un peu des notables. Place. Des élus, des notables.
C'était beaucoup des
pas
politiques.
Tous, parce que non, pas tous. Des employés de l'hôpital, oui. des syndicats de l'hôpital.
Mais ceux qui prenaient ça. La place.
C'était oui. Beaucoup des politiques qui se neutralisaient, quand même.
Oui. Oui.
Dès le départ, il a été décidé que tout se faisait en collectif, qu'il n'y aurait pas de leader, sur chaque action en tout cas, ça soit jamais les mêmes. On fait tourner la parole. Et il n'y a pas besoin de se référer à un tel pour se dire on a le droit parce qu'il a dit qu'on pouvait. Les choix se font collégialement. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser quelqu'un partir sur une idée d'action tout seul dans son coin. Il y avait régulièrement des réunions et des points info où tout se discutait. Ça, c'est vraiment des postulats de départ qui ont été faits. Il n'y a pas de structure juridique. On reste un collectif informel. Oui, on va dire qu'il y a quand même un noyau dur de, ben, je pense que les 12-15 du départ, là, ils étaient 7-8 au départ. On va dire que le noyau dur, aujourd'hui, il s'est quand même élargi. Mais c'est plutôt des quadras, on va dire. Pas mal de gens qui viennent de l'animation sociale ou de l'animation socioculturelle, etc. Mais il y a aussi des agriculteurs, en fait, dedans. Il y a des soignants. Et c'est vraiment ce profil qui est vraiment déjà dans cette capacité à animer des groupes. Et dans cette réunion de l'été, se décide de faire cette grosse opération qui est l'accouchement sur le pont. Et ça part comme ça, en fait. Tout se met là en place. Les gens ne se connaissent pas forcément. La personne qui dit ben, « moi, je vais faire semblant d'accoucher », elle est enceinte, elle est vraiment très, très enceinte à ce moment-là. Elle connaît pratiquement personne des gens qui sont dans le groupe. Mais elle dit « non, non, allez, moi, je veux bien le faire, je m'en occupe ». Et puis voilà.
Et là, on décide qu'on fait une action quelques jours plus tard sur le pont, à la date de fermeture temporaire. Et donc, il, tout de suite, arrive dans cette même réunion l'idée que, de toute façon, il va falloir qu'on ait un nom, parce qu'on va dire qui c'est qui manifeste, quoi. Donc on avait demandé à une copine graphiste sur Paris d'imaginer des visuels, et elle était arrivée avec l'idée de la coquille ou alors c'est pas demain la veille. Et en deux minutes...
On a dit alors c'est la coquille, c'est pas demain la veille, qui vote pour la coquille ? Qui vote pour c'est pas demain la veille ? Et puis,
c'est pas demain la veille.
Le couchement sur le pont a lieu le 29 juin. Et pendant l'été, il y a un effet, diffusion qui essaye de se faire. Notamment, il y a la création d'une page Facebook. Et à travers cette page Facebook, là, il y a un petit peu, il y a la guerre de Facebook avec le comité de défense. Parce que le comité de défense est en place depuis quand même depuis plusieurs années, au moins 5-6 ans. Quoi. Et donc, eux, ils ont une page Facebook avec plus de 3000 suiveurs, etc. Dès que le comité de défense poste un truc et qu'il y a des gens qui viennent liker la page, elle renvoie un message pour faire suivre la page du collectif. Mais ça a fonctionné. Les 3000 suiveurs du comité de défense, on les a récupérés pratiquement. Et dans l'été, les uns les autres dans son coin, tout le monde commence à faire des banderoles. Pour dire sauver notre maternité, pour montrer que la maternité, c'est pas exclusivement le blanc, mais ça concerne bien un territoire. Dans beaucoup de communes autour, on fait des banderoles et on les accroche à l'entrée du village. Sauver la maternité du blanc, il faut garder notre maternité. Il y a des banderoles avec des petits bodys de bébés qui sont accrochés sur les grilles des écoles, les grilles des mairies, etc. Et ça fonctionne. Et là, les élus se fédèrent assez vite, d'ailleurs, en plus, autour de ça, finalement. Et puis, au milieu d'été, donc avec ce petit groupe qui s'est constitué, ils appellent tout le monde à un grand après-midi participatif. On n'est pas loin d'être 80, je pense, pour décider de, voilà, on a fait une première action, l'accouchement sur le pont, de quoi on a envie après, et qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée d'action après, etc., etc. Donc, Kaléidoscope, association d'éducation populaire, qui forme les gens à être dans l'action et à se responsabiliser, etc. Donc là, ils nous mettent devant des grands paperboards et puis à chacun d'aller écrire à quelle action on peut penser. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme action ? Qu'est-ce qui pourrait donner de la visibilité, etc., etc. C'est là que la fête de la réouverture de la maternité, je pense, a commencé à se mettre en place et qui a abouti à cette fameuse grosse manifestation, le blanc voire rouge, au mois de septembre. Et ben à la fin de cet après-midi-là, les quatre groupes qui ont travaillé sur les actions se mettent dedans les gens qui ont envie de participer à ça. Et l'objectif de la fin de l'après-midi, c'était bien de dire, mais ce groupe-là, vous avez une heure là pour discuter entre vous, jeter des idées, etc. Mais pour vous structurer aussi ensemble, entre vous. Et vous repartez, vous êtes autonome. Il y a eu une mail list unique qui a été au début de 25, puis de 30, puis de 60, puis voilà. Donc dès qu'il y avait des infos qui passaient, ça passait sur la main list, c'est pas de mal la veille, donc tout le monde avait l'info. À la rentrée, on se retrouve avec une fermeture provisoire qui est prolongée, en disant non, mais on va refaire un audit, etc. Bon. Il y a tout un groupe là, de 30-50 membres du collectif qui ont envahi les bureaux de l'hôpital ici au Blanc pendant que l'audit se faisait, pour interpeller directement les auditeuses, entre guillemets, qui venaient de Paris. Puis, donc, il y a la fameuse pose de ce cadenas, un moment, qui arrive. Ça, c'est quelque chose qui a été fait par le service de l'ARS, qui a diligenté deux hommes, deux vigiles, qui sont rentrés dans l'hôpital avec l'accord de la direction, etc., et qui sont venus poser les chaînes et les cadenas quand la fermeture provisoire de l'été a été entérinée. Donc, il y a une grosse chaîne avec un gros cadenas qui est posé sur la salle d'accouchement. Et ça a fait frémir vraiment tout le monde. C'est violent, quoi. C'est vraiment violent. Ben, je pense que certains se sont dit, oui, là c'est clair, ils nous mènent en bateau, ils savent où ils vont. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, il faut y aller nous aussi. On laisse pas passer le truc. Quand vraiment la fermeture a été prolongée, il y a la fameuse grosse manifestation, le blanc voie rouge, qui ramène 4000 personnes de nouveau. Et là, le 19 octobre, ils nous disent non, la maternité reste fermée. Le matin, on est parti en grande cohorte à plusieurs pour occuper la grande cour intérieure de l'hôpital de Châteauroux pendant que le conseil de surveillance siège, et on le pressent qu'ils vont confirmer que la maternité reste fermée, en fait. Donc là, on part, il y a les servantes écarlates, il y a tout un cortège, on est extrêmement nombreux, il y a beaucoup de sympathisants Castelroussin, donc les habitants de Châteauroux qui nous rejoignent, etc. On fait des chants, on brûle l'effigie de Buzyn, qui était la ministre de la Santé de l'époque, on brûle l'effigie de Madame Poupet, la directrice de l'hôpital de Châteauroux, etc., etc. Bon. C'est festif et c'est presque joyeux, jusqu'au moment où, effectivement, quelqu'un sort de la salle du conseil de surveillance en disant la fermeture est confirmée, quoi, est maintenue. Donc là, après, là, il y a quelques échauffourées avec les CRS. Il y a un déploiement de 200 CRS, quoi, autour de nous. C'est hallucinant. Donc il y a effectivement un moment, si on se frite un peu avec eux.
Donc la première photo que vous voyez, en gros, il y a, c'est un peu confus, il y a plein de têtes.
Bertrand.
On voit un bouclier de CRS, et en fond, il y a des drapeaux, notamment du collectif, des panneaux, et des gens qui poussent. En fait, c'est un moment d'une grande,
Détresse,
violence, où il y a vraiment des échauffourées, on peut dire, avec les CRS à ce moment-là. On perd un peu notre sang-froid parce que la situation est tellement injuste. Ouais, un moment de grande colère, de détresse et de violence pour nous, quoi.
Puis, sans rien dire à personne, il y a tout un groupe, et ça c'était calculé d'avance, il y a tout un groupe qui part à l'ARS à Orléans. Et qui arrive à rentrer dans l'ARS, mais c'était extrêmement calculé, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à se faire renseigner, à avoir les plans de l'ARS par des gens qui connaissaient, qui travaillaient à l'ARS, donc ils savaient à quel étage, où étaient les ascenseurs, les escaliers, etc., donc ils avaient décidé de se séparer en deux groupes, un groupe qui partait par l'ascenseur, un autre par les escaliers, au cas où un des groupes serait bloqué. C'est là qu'il y a ce fameux face-à-face qui dure 3 heures avec le directeur de cabinet de l'ARS, de Madame Bouygard, qui, elle, n'était pas là ou s'est enfermé dans un autre bureau, on ne sait pas très bien. Et c'est là que le dialogue de sourds commence.
On coince dans son bureau, son directeur de cabinet, et pendant 3 heures, il va y avoir une forme de négociation qui se lance avec l'ARS sur ce qu'on peut faire. Et les femmes, là, sur la photo, du coup, c'est des femmes, elles se sont déguisées en servante écarlate, qui était le symbole qu'on avait repris à ce moment-là, qui était un symbole un peu mondial de la question des droits des femmes. Et du coup, elle rentre dans l'ARS en servante escarlate. Et c'est comme ça qu'on va occuper l'agence régionale de santé.
Au bout de 3 heures, la police arrive, etc. On est évacué de l'ARS. Et pendant qu'il y avait ce groupe à l'ARS, parce que ça dure quand même tout l'après-midi, il y a un autre groupe encore sur le blanc. Et là, ce petit groupe-là s'organise à 17h en sortant du boulot, pénètre dans la maternité, coupe le cadenas, rentre dans le service et s'installe et squatte le service. Et tout le monde s'installe pour passer la première nuit dans la maternité à ce moment-là.
Moi, à ce moment-là, je me dis, on a gagné. Je me rappelle très bien du moment. On rentre, donc on est sur l'autoroute. Et là,
Judith.
On entend donc Laurent qui dit, on est rentré dans la maternité et on est 50. Et moi, on était au moins 30 ou 40 déjà à l'ARS. Et ils sont aussi 50 à la maternité. Et là, je me dis, waouh, mais nous aussi, on va tous aller à la maternité ce soir. Et en fait, on va gagner, c'est obligé, quoi. Tout le monde est là.
Enfin, il n'y a pas vraiment un plan établi, parce que quelque part, on se dit, bon, on va se faire sortir tout de suite. En fait, on n'y croit pas. C'était l'action pour l'action, en fait, quoi. Et puis, une fois dedans, eh ben, tout s'est organisé. On est resté 12 jours. Ils ne nous ont pas encore sortis. On dit, on reste, alors, bon. Un commerçant qui avait un truc d'électroménager qui nous prête des micro-ondes, qui a une chambre qui est dédiée pour être un peu le QG. La salle des infirmières devient le lieu. Dire que c'est une cuisine, c'est beaucoup dire, parce qu'on y pose un frigo et puis deux micro-ondes et la cafetière. Il y a des animations. Tous les jours, il y a un planning pour organiser le nombre d'animations qui vont se faire dans la journée. Dire combien de personnes squattent, c'est impossible à dire, parce qu'il y a un roulement constant. En tout cas, il y avait tout le temps au moins 20 à 30 personnes qui dormaient. Toutes les nuits, il y a des tableaux. Alors, on tapisse le couloir de grands feuilles de papier blanc avec chacun s'inscrit pour la journée où il vient dormir, etc. Et dans la journée, très vite, on a essayé d'installer un peu un comptage. Il y avait 250 à 300 personnes qui passaient tous les jours nous voir. Les gens venaient nous amener de la nourriture, des plats préparés. Les jours de marché, les gens remontaient du marché avec des paniers de fruits, de légumes qu'ils nous apportaient. Très vite, il y a un point info qui s'installe. Pour dire un peu où est-ce qu'on en est. Parce qu'on ne se contente pas de simplement d'être là. On interpelle, on redemande à pouvoir rencontrer l'ARS et la ministre. On commence à prendre des contacts, notamment avec la maternité de Carhaix qui avait gagné son combat contre la fermeture de sa maternité, pour avoir le contact avec son avocat, parce qu'on veut lancer des actions tout de suite. On se dit qu'il faut lancer des actions, etc. La presse nationale commence à nous donner des échos. Il y a des gens qui nous interpellent, notamment dans les politiques, puisque les Européennes ne sont pas très loin quand même à ce moment-là. Donc on instaure très vite un point info tous les jours à 19h. Et à 19h, parfois, oui, il y a 200 personnes dans le couloir de la maternité pour venir écouter les infos du jour, savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se fera le lendemain, où est-ce qu'on en est, les échos de ceci, de cela, etc. La stratégie, elle est, on est là, on reste tout aussi longtemps qu'on peut, quoi. Parce qu'on se dit que quand même, avec cette occupation, ça va les faire plier quand même. Ils vont comprendre qu'on a besoin de notre maternité. On va peut-être se faire évacuer, mais si on se fait évacuer, c'est parce qu'ils vont rouvrir. Les CRS sont arrivés, je ne sais plus, là, pareil, un déploiement de force assez hallucinant, qui déboule à 4h du matin. Donc il y avait un téléphone qui avait été acheté et dédié à la lutte, où il y avait, je ne sais plus moi, une soixantaine de numéros de téléphone préenregistrés. Là, on avait tous reçu un message, enfin voilà, on savait que ça allait arriver. J'arrive sur le devant de l'hôpital, il devait être 6h moins le quart, quelque chose comme ça. Donc ils avaient déjà été sortis. Il y avait 80 occupants ce soir-là dans la maternité. Il y en avait 50 femmes qui avaient revêtu le costume de servante écarlate, qui étaient assises dans le couloir. La veille, tout le monde avait été briefé, c'était pas de violence, et on fait les corps mous, et on n'offre pas de résistance. Les servantes écarlates sont sorties du hall de l'hôpital, ça c'était une image incroyable. Elles sont sorties en jouant leur jeu de servantes écarlates, c'est-à-dire en colonne par deux, en silence, à tête baissée, et en scandant « résistance, résistance, résistance ». On s'est retrouvés là avec le cordon de CRS devant, etc. Très vite, la maire du Blanc, Annick Gombert, nous a dit ben, « je vous ouvre la salle de la municipalité pour qu'on puisse se mettre à l'abri, etc. » Pour certains, c'était un peu un trauma quand même, hein, cet événement-là. Et puis là, on s'est dit, bon, mais on fait quoi là maintenant? On est tous là, d'accord, ok, mais on fait quoi? Et là, très vite, on s'est dit, ben, on continue. On n'a toujours pas de réponse à nos revendications de pouvoir avoir une rencontre, un échange, un face-à-face pour pouvoir s'expliquer. On s'est dit, on va aller occuper les impôts qui étaient en instance de fermeture. Donc on a attendu 9h, puisque le service des impôts n'ouvrait qu'à 9h. On est parti au service des impôts. Là, la personne était en train d'ouvrir la grille d'accueil. Elle nous a vu arriver, mais elle ne s'est pas méfiée plus que ça, finalement. Donc elle nous a laissé rentrer. On était vraiment nombreux. Et là, d'un seul coup, on a vu arriver... Je pense qu'il y avait un CRS par manifestant dans les lieux. Quoi. Après, à l'intérieur, on a expliqué pourquoi on était là, ce qu'on voulait. Et enfin, des responsables du service des impôts du Blanc est venu nous rencontrer. On lui a demandé, vous êtes service public, on voudrait que vous relayiez notre demande de rendez-vous et d'écoute de la part de Madame Bouillard à l'ARS et puis de la ministre, etc. Quoi. Le symbole, c'est que c'était aussi un service public qui était en instance d'être fermé aussi. Par contre, ce qu'on a repéré très vite, c'est qu'il y a une partie des camions des CRS qui sont repartis. Ils sont repartis à la maternité. Et là, la maternité, dans la matinée, l'hôpital faisait déménager le service de la maternité. C'est-à-dire que tout le mobilier de la maternité a été vidé. On a su par après qu'ils ont fait couper les réseaux eau, électricité, etc. Tout était coupé dans le service, etc. Et puis après, la fin de l'occupation des services des impôts, elle s'est fait un peu d'elle-même. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que on était usés, fatigués. Il y en a qui n'avaient pas dormi de la nuit, quoi. Donc, et puis dans l'après-midi, on a quitté les locaux au bout d'un moment, quoi, de par nous-mêmes, en fin de compte. Hein. Il y en a qui commençaient à craquer un peu, enfin émotionnellement et nerveusement. Le lendemain soir, on a fait un grand point info. La directrice de l'école de musique, qui fait partie du collectif, hein, a ouvert toute grande la grande salle de l'école de musique. La salle était archi pleine, les fenêtres étaient grandes ouvertes, il y avait autant de monde dehors que dedans, en fin de compte. Il y avait deux, trois choses qui étaient déjà envisagées, notamment la journée sur Paris se structurait petit à petit. Donc on a redonné en disant, ben voilà, il y a quand même d'autres choses qui arrivent. Il y a l'opération Ville Morte qui se fait bientôt, il y aura Paris, etc., etc. Et puis, il y a dans cet entre-deux, cette possibilité de la maison médicale qui se met en place en même temps. Et ça, heureusement, si on n'avait pas eu cette maison médicale, je ne sais pas du tout comment le mouvement aurait continué, en fait. Donc, juste devant l'hôpital, il y a cette maison médicale à l'époque, qui est tenue par une SCI de médecins, et la collectivité, la communauté de communes, est en train de créer une maison de santé. Donc, sur le temps où nous, on occupe la maternité, les médecins déménagent dans l'autre bâtiment. Les médecins, certains des médecins qui sont dans cette maison médicale, viennent nous voir, participent, parce que pour eux, c'est inconcevable que cette maternité ferme. Ils viennent nous voir, ils discutent avec nous, etc., etc. Et puis, quand on est évacué de la maternité, ils comprennent bien qu'on est là un peu démunis à se dire, mais alors, on se retrouve où? On fait quoi, en fin de compte? Et là, il y en a un qui vient et qui dit, mais écoutez, nous, la maison, elle est vide. On peut vous la mettre à disposition pour le moment, et puis vous l'occupez. Et donc, très vite, cette maison amicale s'est mise en place. Donc, très vite, on a pu dire, ben voilà, on se retrouve.
Voilà, donc on a aménagé comme ça dans cette maison. On a mis une banderole pour dire qu'on était là. Pour nous, c'était un sacré pied de nez de dire qu'on s'était fait virer de là, mais qu'on venait là et qu'on n'était pas loin. Et puis au début, c'était un lieu de... Voilà, on faisait des réunions avec tout un tas de... Tous les gens qui voulaient qu'on se tienne au courant de où en était la suite du combat. C'était les réunions du groupe aussi. C'est là où on mettait nos affaires, tous nos bazars de banderoles. Puis petit à petit, en fait, ça a fait qu'il y a aussi d'autres gens qui sont venus pour d'autres choses dans ce lieu. Et puis, du coup, on s'est lancé dans une réflexion d'un lieu, d'un tiers-lieu, d'un lieu d'initiative pour du commun, quoi.
Et donc, il y a toujours ce petit groupe qui se réunit un petit peu avant, mais ce petit groupe, il s'étoffe. En fait, il est plus de 7-8, il est de 25, en fait, 25-30, quoi. Mais tout le reste, c'est vraiment, ça travaille en sous-groupe. Les points infos, c'est vraiment des points infos où on est 150 encore à ce moment-là. Hein. 15 jours après, 15 jours, 3 semaines après, on fait une réunion avec ce gros groupe là, 25-30. Ben voilà, on a été évacués de la maternité et voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est fermé. Et là, il y a plein d'idées qui fusent. Et puis, on pourrait monter à Paris, à pied. Cette réunion, elle est, je crois qu'elle est le 15 ou le 18 novembre, quelque chose comme ça. Et la marche part le 1er décembre. Ils ont défini très vite, ben voilà, il faut faire par tronçon, quelle est la capacité de marche d'un groupe sur une journée. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'hébergement, de la nourriture, il faut un fourgon pour pouvoir emmener les affaires, et ils trouvent. Ils trouvent les gens, le parc naturel régional de la Brenne prête son grand fourgon, il y a des prises de contact avec les réseaux de un tel pour trouver, là on a les copains de machin qui peuvent ouvrir une grange pour leur pas du midi, là la commune de machin elle peut ouvrir la salle des fêtes, et tout se met en marche comme ça. Donc il y a Sylvie, Jean, Pascal et Marie qui ont fait, et Claudie pardon, qui ont fait les 15 jours de marche en entier. Et après, tous les jours, il y avait une voiture qui partait du Blanc avec les relayeurs de la journée, le ravitaillement de bouffe qui emmenait les gens, qui ramenait ceux qui avaient besoin de revenir, etc. Donc on arrive à Paris, effectivement, à pied. Là, il y avait deux bus qui étaient montés du Blanc avec 300 Blancois qui étaient là, plus plein de sympathisants sur Paris, etc. Et on est monté en masse comme ça et on est arrivé à la mairie du 14e. Et là, il y avait des prises de parole, etc. Il y avait quelques politiques qui étaient là. On essaie de monter vers l'Élysée, puisque c'était la marche des oreilles. On allait emmener les oreilles à Emmanuel Macron pour qu'il nous entende. Et là, on se fait stopper au niveau de l'esplanade des Invalides. Quand on comprend que vraiment ça ne passera pas et que vraiment y a rien ne se fera, on fait demi-tour et on revient à la mairie du 14e. En amont, on a eu un accord de pouvoir rencontrer Madame Buzyn, mais sauf qu'on ne la rencontrera pas, puisqu'on rencontrera un conseiller du ministère, un chargé de mission qui venait juste d'arriver depuis 3 mois, qui connaissait rien au dossier, quoi, finalement. La désillusion n'est pas venue forcément sur le chemin du retour, mais c'était très amer, en fait, hein, cette journée. Le lundi a été, pour ceux qui sont restés sur Paris, je pense, ça a été très, très dur. Alors, c'est ça qui est bien aussi d'être un collectif nombreux, c'est que les coups de déprime, un peu, viennent pas au même moment pour tout le monde. Mais quand même, après la marche des oreilles, ce mépris au ministère, à l'Élysée, ça a quand même marqué beaucoup, là. Qui a maintenu et qui a remis la machine en route pour certains, c'est qu'on avait en ligne de mire le printemps avec les maternités en colère. Cela se fait en lien avec la coordination nationale des hôpitaux et des maternités de proximité. C'est une association, c'est une structure associative, et il rassemble des comités de défense d'hôpitaux ou de maternités qui sont en lutte, qui ont été en lutte, qui pressentent qu'ils vont être en lutte. Et nous, on avait dans l'idée de faire un gros événement, parce que le mois de mars, ça fera 9 mois que la maternité du Blanc est fermée. On fait Macron accouche. Alors la coordination nationale, elle fait tous les ans une ou deux journées, je crois, où elle fait des journées de réflexion et d'échange, etc. Et donc nous, on dit, on peut porter une de ces journées-là. Il y a eu, je crois, 14 collectifs de lutte qui sont venus. En parallèle de tout ça, c'est vraiment la période des grandes fermetures de maternité, donc on parle, il n'y a pas que celle du Blanc. Mais c'est aussi la période des Gilets jaunes, et c'est aussi toute la période des grèves, des services, des urgences, services de santé, etc. Donc c'est vraiment une période très, très bousculée. Et je sais que Madame Buzyn, un jour, où elle se faisait interpeller sur un plateau et où on lui faisait référence à la maternité du Blanc, lâche en disant « Mais pourquoi est-ce que, dès qu'on aborde les maternités, on me parle de celle du Blanc ?» Donc voilà, alors est-ce qu'elle en a eu ras-le-bol et s'est dit « Bon, je vais aller les voir, comme ça on arrêtera de m'en parler ?» Sincèrement, je ne sais pas pourquoi elle accepte. Moi, j'y étais pas. Et ce qui s'y est dit, c'est qu'elle est restée ferme sur ses positions. La maternité du Blanc est dangereuse. Elle ne peut pas rouvrir. À l'époque, son grand argument, c'était de dire « On va vous mettre en place un centre de périnatalité, les CPP, centre de périnatalité de proximité, et puis je vais mettre en place des hébergements pour les familles des futurs parents à proximité des hôpitaux, et je vais mettre en place des services de taxi, etc., qui puissent emmener les femmes en cours de travail à l'hôpital le plus proche. » C'était son discours à l'époque. Hein. Ça, c'est un panneau, donc façon panneau de signalisation routière, dans les codes, dans les normes. Le sigle au milieu représente donc une maman qui est couchée avec son gros ventre. Donc c'est vraiment une séance d'accouchement. En dessous, il est marqué en gros « aire d'accouchement d'urgence ». Là aussi, c'est quelque chose que nous avons lancé un 1er avril. C'était vraiment pour nous de dire, mais voilà, quand une maman part à l'hôpital, le bébé peut arriver au milieu de la route. Elle n'a pas toujours une heure pour faire la route. Quand Madame Buzyn dit il vaut mieux fermer une maternité et mettre une heure de route, le calcul, il n'y est pas en termes de sécurité pour les femmes. Moi, j'ai un ami qui est membre du collectif qui m'a dit, mais Sylviane, de toute façon, la maternité du Blanc, c'est perdu. On a fait trop de bruit et on est trop emblématique. Rien que pour ça, elle ne pourra pas rouvrir. Moi, j'y ai cru encore, jusqu'à Macron à coup, j'y ai cru encore un peu. Et puis après, j'ai dit, bon, ben non, ça ouvrira pas.
Ce qui est complètement fou et qui fait que, du coup, c'est la douche froide, c'est de se dire que, malgré qu'il y a des gens qui se battent comme ça depuis autant de mois, de telle manière, c'est-à-dire de cette façon non violente, mais qui en même temps savent qu'elles veulent et qui font des propositions et qui sont en capacité de... Eh ben en fait, c'est non en fait. La démocratie, tout ça, tous ces trucs là qui font qu'on se dit qu'on a le droit de participer nous à ce qui serait bien pour ici et que quand c'est pas normal et pas juste, eh ben nous il suffit qu'on le dise, on va le dire plus fort, si on va encore le dire plus fort maintenant que tout le monde le sait, c'est bon, ça va s'arrêter quoi. Et en fait non.
C'est dans le printemps, on refait une grande réunion participative. Aujourd'hui, quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on se donne comme but? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on continue? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif et comme moyen, etc. Et là, le truc, c'est vraiment de dire que notre socle commun, c'est quand même de travailler pour la sécurité des futures mamans. Donc, on se redéfinit ça et on se dit, ben, on continue une vigilance et une veille. Déjà, il y avait ce fameux centre de périnatalité qui était en train de s'installer à l'hôpital. Donc, on surveille ça. Qu'est-ce qui s'y fait? Et puis, je peux vous dire que là, on est rentré dedans une fois ou deux parce que vraiment, c'était extrêmement mal organisé. Au lendemain de Macron accouche, on a rédigé un manifeste national pour la renaissance des maternités condamnées et où on donne tous les points. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on revendique? De quoi un territoire a besoin en termes de maternité? Il y a eu 16 délégations, voilà, représentant 16 territoires en guerre contre la fermeture de la maternité, se sont réunis au Blanc pour exprimer une même révolte et exiger leur dû. Nous refusons la mise en danger des mères et de leurs enfants, les faux arguments sécuritaires déployés par le gouvernement et ses experts, la logique centralisatrice et économique qui amène à fermer des services de première nécessité. Nous refusons de subir cette double peine, être privé de maternité et par là même de toute autre alternative, maison de naissance, accouchement à domicile, etc. À l'image des territoires, notre combat est multiforme, indestructible et inaltérable. Et après, on dit, le combat se mène sur tous les fronts, juridiques, politiques, scientifiques, citoyens. Effectivement, la maternité est fermée, mais par contre, on a gagné une richesse là. Après, on se dit, mais mince, comment on est passé de là à là? Pourquoi on a fait ça à ce moment-là? Et on ne sait plus. Quand c'est pas écrit ce moment, on ne sait plus. Je trouve que moi, j'ai un travail d'écrivain, biographe, donc je suis dans l'écriture. Et au début du combat de la maternité, quand j'ai vu tout ce qui se passait dans ce lieu, c'était assez improbable, quoi. J'ai dit, il faut qu'on écrive au jour le jour ce qui se passe, et puis un jour, j'écrirai la lutte. Donc le gros cahier, il est en bas. Mais en termes d'archives, il y a effectivement quand même pas mal de coupures de presse qui sont là. Mais les archives, c'est surtout ça. C'est en fait, c'est les outils de la lutte. C'est les banderoles, c'est les pancartes.
Là, il y en a une là, pardon. Est-ce qu'il y a juste les capes?
Alors, c'est tout simplement une grande cape d'un tissu un peu soyeux, un peu brillant, rouge, avec une grande capuche rouge. Mais elles ont en plus, une grande écarlate, elles ont ce bonnet blanc qui rappelle un peu les bonnets de nos arrière-arrière-grand-mères, le bonnet blanc avec une espèce de petit calot qui se resserre dans le dos. Et puis devant, une grande bande de tissu un peu plus rigide qui ressemble plus un peu à la quiche-note des Vendéennes. En fait, qui a surtout comme objectif là dans ce costume-ci de cacher à la femme la possibilité de voir ce qui se passe autour d'elle en fait. De fait, on ne la voit pas non plus de l'autre côté. Mais c'est avant tout, elle a un regard qui est orienté, cloisonné. Elle n'a pas la possibilité d'avoir une vision élargie. Ce qui est très symbolique. Hein. L'énergie qu'on a mise dans le combat, elle est là. Elle continue, en fait. Donc, on monte les quelques petites marches du perron. Et on va rentrer dans la grande salle, qui est la salle commune aujourd'hui, qui était la salle d'accueil de la maison médicale. Et il y a de la vie, il y a du monde. On passe le sas. C'est impressionnant le nombre de structures adhérentes au tiers-lieu. Et c'est vraiment, là pour le coup, c'est une dynamique pour le territoire qui est vraiment assez surprenante. Moi, il y a une jeune là qui m'a dit, moi je pensais vraiment ne pas avoir d'avenir au blanc en tant que jeune, trouver travailler ici, pour moi c'était mort culturellement, etc. Mais quand je vois ce qui se passe dans ce tiers-lieu, je reprends espoir, quoi.
C'est la seule victoire qu'on ait eue. Mais en tout cas, quand même, on est content d'être dans ce lieu-là parce que finalement, ça montre quand même un contre-pouvoir, même si, effectivement, on peut pas lutter contre le rouleau compresseur de la politique qui est en train de se mettre en place, enfin, qui se met en place depuis très très longtemps d'ailleurs par rapport à l'hôpital public. Mais on pense quand même que si on n'avait pas été là, il y aurait peut-être d'autres services de l'hôpital qui seraient déjà plus là. Le rouleau compresseur, il continue, mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'on reste un contre-pouvoir et que la directrice de l'hôpital, elle a encore peur de nous.
Les coulisses de la lutte est une série documentaire sonore produite par l'association Organisez-vous. L'épisode que vous venez d'entendre a été réalisé par Nariman Babaïssa. Merci à Chloé, Jean-Michel et Alix qui ont rendu la réalisation de cet épisode possible. Merci à Sylviane, Claire, Bertrand, Judith et Hélène pour leur confiance, leur temps et leur témoignage.